17h15. Les voix de l'économie, c'est avec vous François Geffrier. Sommes-nous prêts pour la guerre? Titre et question du livre publié par votre invité.
Jean-Dominique Mercier est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. En ces temps où Emmanuel Macron réitère ses alertes sur la Russie, sur l'hypothèse d'une guerre qui toucherait plus directement l'Europe, la question « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» se pose-t-elle de plus en plus directement?
Oui, bien sûr. J'ai écrit ce livre l'été dernier, alors qu'on était déjà dans la guerre d'Ukraine. Et c'est vrai que les déclarations d'Emmanuel Macron en début d'année, en disant « je n'exclus rien », y compris parlant de troupes au sol, rendent cette question de plus en plus urgente, en fait.
Il dit « nous avons sans doute été trop hésitants en formulant les limites de notre action à quelqu'un qui n'en a plus et qui est l'agresseur ». Est-ce qu'il a raison de dire cette phrase ?
Alors, je pense qu'Emmanuel Macron a raison sur le fond. C'est-à-dire qu'il a raison de réintroduire une posture de dissuasion en créant de l'incertitude chez la personne d'en face, dans le camp d'en face, c'est-à-dire en Russie. D'ailleurs, la vigueur des réactions russes à l'égard de la France et d'Emmanuel Macron montre bien qu'il a mis le doigt là où ça faisait mal du côté russe. En revanche, la manière, le moment où il a exprimé n'était peut-être pas le mieux choisi.
Alors nous sommes dans les voies de l'économie, Jean-Dominique Mercier, on va se concentrer sur l'aspect économique de la question « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» D'abord, est-ce qu'on peut vraiment parler d'économie de guerre concernant la France aujourd'hui, comme le font le ministre des Armées Sébastien Lecornu et puis le président de la République?
C'est d'abord un slogan. Avant d'être une réalité, c'est un slogan. Alors il y a des choses qui se font, des réinvestissements, des entreprises qui se mobilisent. On pense par exemple à Nexter, le fabricant des célèbres maintenant canons César, qui a réellement augmenté ses cadences de production. Mais on est très, très loin du compte. On est très loin du compte parce que, vous le savez mieux que moi, dans une émission consacrée à l'économie, la France sort d'une période de 30 ans de désindustrialisation. On l'avait vu au moment du Covid, on le revoit au moment de la guerre. Et qu'on ne reconstruit pas une économie industrielle en claquant dans les doigts. Et on voit qu'il y a des manques. Par exemple, on ne produisait plus de poudre, de poudre pour les canons.
Oui, c'est désindustrialisation et puis 30 ans de paix ou
oui.
De semblant de paix.
30 ans de paix, c'est vrai qu'on avait une industrie qui est restée d'extrêmement bon niveau technologique. On a une industrie réellement qui joue dans la cour des très grands, mais qui était dimensionnée, selon ce terme inélégant, qui était dimensionnée pour produire peu, mais des choses d'extrêmement bonne qualité. C'est un peu comme l'industrie du luxe, en quelque sorte. Voilà. Et puis tout d'un coup, on doit passer de la haute couture à la confection grand public. Et là, bah, évidemment, on n'a pas tout à fait les moyens. Donc, il y a un effort, mais on est très loin du compte.
Et au-delà des moyens, est-ce que les industriels en question peuvent vraiment faire plus vite? Sébastien Lecornu ne cesse de leur dire « attention, on va vous taper sur les doigts si vous continuez à faire trop lentement ».
Alors les industriels ont une réponse toute faite qui n'est pas fausse. Ils disent « écoutez, passez-nous des commandes ». Mais ce n'est pas parce qu'on passe des commandes qu'ils sont capables d'y répondre rapidement. Non pas, ce n'est pas forcément les grands groupes, les grandes entreprises du secteur qui sont principalement en difficulté. C'est toute la chaîne de sous-traitance, de fournisseurs qui, évidemment, se consacrent d'abord aux industries civiles parce que ces industries civiles, c'est l'essentiel de leur activité. Et donc, comment on bascule de l'un à l'autre? Il y a aussi le problème du recrutement des personnels. C'est difficile aujourd'hui. Tous les secteurs industriels souffrent de difficultés de recrutement et les industries de défense comme les autres.
Et dans votre livre, Sommes-nous prêts pour la guerre, vous détaillez typiquement tout le processus de fabrication de ce fameux canon César. Et rien que le tube du canon, qui est la pièce maîtresse, c'est très compliqué parce qu'il faut aller faire une préforme chez un industriel qui a d'autres clients effectivement, puis le ramener chez Nexter et le parachever. Tout ça prend à chaque fois des mois.
Ça prend des mois. On est passé de 28 mois, je crois, 30 mois à 18 mois pour faire un canon. Un avion de combat Rafale, entre le moment où vous dites ça y est, je le commande, et le moment où il va vous être livré, il se passe 3 ans. Ce sont des délais considérables.
À tel point que la France en a vendu d'occasion à la Grèce et à la Croatie.
Elle a vendu d'occasion à la Grèce et à la Croatie.
Qu'est-ce qui se joue exactement, Jean-Dominique Mercier, autour de l'hypothèse d'un bouclier européen antimissile? On a l'impression que c'est un sujet très économique, très business, selon qu'on suit l'Allemagne avec des technologies israéliennes, américaines et allemandes, ou qu'on suit la France.
Oui, l'affaire du bouclier antimissile est à la fois un dossier politique, un dossier stratégique. Est-ce qu'il faut un bouclier antimissile? Est-ce qu'il est imperméable? Est-ce qu'il peut tout arrêter? Est-ce qu'il n'est pas contraire à la dissuasion nucléaire? La dissuasion nucléaire, ça consiste à dire aux Russes, ne nous tirez pas de missiles. Le bouclier antimissile, ça consiste à intercepter les missiles une fois qu'ils sont tirés. On voit bien qu'il peut y avoir un certain nombre de désaccords. Mais les aspects industriels sont très importants. Très importants parce que la France a des entreprises, notamment deux grandes entreprises qui sont Thales et MBDA, qui sont dans le domaine de la défense antiaérienne et dans la défense antimissile, avec des compétences de très haut niveau, et qui ne peuvent pas être complètement exclus d'un énorme projet européen, parce que les Allemands ont réussi à fédérer autour d'eux une vingtaine de pays, et ils s'équipent avec ce qui est disponible sur le marché, c'est-à-dire du matériel israélien, le système Harrow pour l'interception à très haute altitude. Il s'équipe avec des systèmes américains, Patriot, et il s'équipe avec des systèmes allemands pour la plus basse altitude, Iris. Et donc, on a effectivement la volonté de ne pas être exclu de ce programme dont, effectivement, les Français étaient hostiles, clairement, à ce projet. Mais il se fait, et donc, est-ce qu'on peut rester totalement en dehors du jeu? La réponse d'Emmanuel Macron est peut-être pas. Il va peut-être falloir, d'une manière ou d'une autre, y participer.
Dans votre livre, vous explorez aussi la question des armes nucléaires. La France est-elle à l'abri sous son parapluie nucléaire? Je vais un peu spoiler le livre. Là, pour le coup, vous dites que la réponse est plutôt oui. Notre dissuasion est crédible. J'ai envie d'élargir la taille du parapluie puisqu'Emmanuel Macron propose de donner une dimension européenne, dit-il, à ce qui est aujourd'hui la doctrine de la France de protection de ses intérêts vitaux. Comment vous voyez la chose? Comment ça se traduirait d'un point de vue opérationnel, industriel, budgétaire?
Alors, il y a beaucoup d'incompréhension sur ce sujet. Emmanuel Macron dit que la dissuasion nucléaire a une dimension européenne. Elle l'a déjà, cette dimension européenne. Et en fait, elle l'a depuis ses origines. C'est-à-dire que depuis le livre blanc de 1972, écrit par un gaulliste historique, Michel Debré, il a toujours été conçu que une partie des intérêts vitaux de la France était liée à l'Europe. On ne peut pas imaginer que l'Europe soit envahie par l'armée russe ou l'armée soviétique, jadis, sans que les intérêts vitaux de la France ne soient concernés. Si l'Allemagne était attaquée, évidemment que les intérêts vitaux de la France seraient très rapidement et très gravement mis en cause. Donc, la dissuasion nucléaire française participe à la défense de l'Europe et participe même à la défense de l'Alliance Atlantique. C'est un fait. Ce que Emmanuel Macron propose, c'est d'entamer un dialogue plus important avec nos alliés, surtout dans la perspective d'un désengagement américain, d'un isolationnisme américain, où la sécurité américaine, la protection américaine, le parapluie nucléaire américain serait plus troué si Donald Trump était réélu. Donc, il propose quelque chose, mais à aucun moment, il ne dit le processus de décision de l'emploi de l'arme nucléaire serait partagé avec je ne sais qui, Ursula von der Leyen. Ça, c'est vraiment de la polémique politicienne d'assez bas niveau, réellement. Je suis un peu concerné par les commentaires qu'on entend. À aucun moment, il ne propose ça.
Jean-Dominique Chercher, pour finir sur l'état un peu de nos forces et toujours sur ce thème, sommes-nous prêts pour la guerre? On a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Leur successeur, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération, va commencer à être mis en production. Le tout premier sera mis à l'eau en 2035. Ces 4 nouveaux-là iront sur et sous les eaux jusqu'en la fin des années 2080. Est-ce que 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, est-ce qu'un seul porte-avions, est-ce que, en gros, à terme, 200 avions Rafale, c'est suffisant?
Pour la dissuasion nucléaire, pour l'instant, c'est suffisant, oui, clairement. Les sous-marins nucléaires, ils servent à quelque chose d'assez inimaginable en réalité. Ils servent à ce qu'on appelle la deuxième frappe, c'est-à-dire la frappe en second. Mmh. C'est-à-dire si la France était nucléarisée, c'est-à-dire si des bombes nucléaires tombaient sur la France, des bombes russes par exemple, tombaient sur la France, nous aurions, grâce à ce sous-marin en plongée quelque part dans l'Atlantique, nous aurions les moyens de répliquer à une agression nucléaire contre la France et donc de détruire beaucoup de choses en Russie. C'est un scénario quand même absolument extrême. Donc oui, 4 sous-marins, ça permet d'en avoir au moins un en permanence en plongée. On a vu au début de la guerre d'Ukraine qu'à un moment donné, pendant quelques jours ou quelques semaines, on ne sait pas parce que ce sont des données confidentielles, il y en a eu jusqu'à 3. Donc oui, je pense que la dimension est bonne. Toute autre chose, c'est les capacités conventionnels, classiques, les avions de combat par exemple, ou le matériel, le nombre de canons, d'obusiers, de frégates, à ce niveau-là, oui, la masse que nous avons, la masse de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, sont sans doute un peu trop faible, mais après il faut faire des choix dans un contexte budgétaire que l'on connaît, forte augmentation du budget de la défense, néanmoins un endettement public considérable, donc on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on voudrait.
Et d'ailleurs, la loi de programmation militaire a étalé certaines de ces dépenses, notamment les rafales. Le char du futur, projet franco-allemand, et le système de combat aérien du futur, dont un chasseur, là aussi franco-allemand, vous semble-t-il lancé véritablement? Parce que souvent, il y a des points d'étape, et finalement, on continue de se voir, et on ne voit pas beaucoup de prototypes voler.
Ce qui est lancé, ce sont les études, mais rien de plus que ça.
Est-ce que ça va aller au bout, selon vous?
Franchement, on peut parfois en douter. D'abord, est-ce qu'il y a une urgence à le faire ou pas? C'est pas évident. Et ce qu'il faut, c'est que nos industriels se maintiennent au niveau technologique le plus élevé possible, pour l'instant. Après, on verra bien. Le char du futur, beaucoup se disent, c'est plus le futur du char que le char du futur. C'est-à-dire, c'est des conceptions extrêmement nouvelles de ce que pourraient être les systèmes de combat terrestres vers 2050-2060. C'est de ça dont on parle. Des systèmes beaucoup plus robotisés, des systèmes autonomes, des systèmes... Bref, il faut que nos industriels aient de l'argent pour travailler sur des technologies, éventuellement des technologies de rupture, et pas réinventer des choses qu'on sait déjà faire.
Jean-Dominique Mercher, votre livre s'appelle « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» publié aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci
sur Radio
à vous.
Classique. Et très bonne journée.
Merci François. À demain 6h pour la matinale de l'économie. À suivre, David Doucan et les coulisses de la politique. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Joker de la campagne européenne des macronistes. Radio Classique, 7h20.